Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Ça manque pas d'air. Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme de cet épisode, la question des quartiers populaires, et singulièrement d'une ville, emblématique des quartiers prioritaires Grigny. Grigny est une ville qui se situe dans l'Essonne, à quelques dizaines de kilomètres au sud de Paris. Elle est à la fois totalement insérée dans le tissu urbain de l'Île-de-France, tout en portant à peu près tous les stigmates des villes populaires de banlieue. Avec 22% de la population qui a entre 15 et 29 ans, le chômage concerne 19% des habitants, soit trois fois plus que la moyenne nationale. C'est une ville pauvre, paraît-il la plus pauvre de France d'après les données de l'INSEE qui sont souvent citées. C'est aussi une ville marquée par des opérations d'aménagement urbain emblématiques des années 60-70, construction de grands ensembles comme la Grande Borne ou Grigny 2, aujourd'hui de sinistre réputation. C'est une ville où règne, du fait de sa proximité de l'autoroute A6 et de l'aéroport d'Orly, d'un trafic de drogue assez intense. Et évidemment, la participation d'Abedi Koulibaly, qui a vécu quelques années à la Grande Borne, aux attentats de janvier 2015, a fini par installer l'image d'une ville, de tous les excès, de tous les problèmes et de tous les désespoirs, pour citer nos deux invités. Mais Grigny, ce n'est pas que cela. C'est ce qu'on voit quand on reste à la surface des choses. Mais Grigny, ce sont aussi des habitants, des trajectoires individuelles, des collectifs de solidarité, des espaces moins visibles et sans doute beaucoup moins spectaculaires, mais qui font de cette ville, finalement, un espace tout aussi complexe et diversifié que les autres. Et le projet de nos deux invités, avec leur ouvrage Grands Ensembles, est justement de casser cette image et d'aller un peu plus près des gens et des territoires qui composent cette ville. Non pas pour édulcorer le propos ou la réalité, la violence est bien visible ici, mais pour montrer que la vie à Grigny, c'est finalement aussi la vie de Gilberte, de Martine, d'Anne, de Foued, de Tonton Vikash ou de Youssoufa. Bref, d'habitants et d'habitantes qui portent l'histoire et la vie de ce territoire. Et s'il faut le comprendre des phénomènes de violence, il faut revenir sur ce qu'ils écrivent aussi en introduction, à savoir l'ordinaire de la violence structurelle qui sévit lorsque se concentrent des formes exacerbées de pauvreté, de précarité et d'insécurité. Et pour revenir sur l'histoire de cette ville, emblématique de la société française, comme de la politique de la ville, nous avons donc le plaisir de recevoir les deux auteurs, deux sociologues, qui viennent donc de publier à la découverte, après 10 ans d'enquête, Grands Ensembles, sous-titre « Violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populaires ». À commencer par Fabien Truong, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes sociologue, écrivain, enseignant à l'Université Paris 8 Saint-Denis, vous êtes membre du CRESPA, pour Centre de Recherche en Sociologie et Politique de Paris, et vous co-dirigez avec Paul Pasquali la collection L'Envers des Faits aux éditions La Découverte. Et vous êtes enfin membre du comité scientifique, je dois le dire, de la revue Diversité de l'IFE. Et Jérôme Truc, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes également sociologue, chargé de recherche au CNRS, directeur adjoint de l'Institut des sciences sociales et politiques, et on vous doit en 2016 Sidération, une sociologie des attentats aux éditions Presse universitaire de France. Et comme chaque mois, nous retrouverons une chronique historique proposée aujourd'hui par Héloïse Marguerite, étudiante à l'ENS de Lyon.
Ça manque pas d'air, avec Régis Guyon.
Quand on regarde un peu la Grande Borne, on voit qu'il y a deux bâtiments qui sont en forme de spaghettis.
Vos confrères
appellent ça vulgairement les nouilles.
Les nouilles, oui.
Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça représente ?
Eh bien, la nouille, là, mais ailleurs, elle a une autre forme. C'est le labyrinthe. C'est la notion même de labyrinthe. Je crois que la sécurisation de l'existence ne peut s'acquérir que dans une formule labyrinthique, qui est d'ailleurs la formule des vieilles villes. Quand on est, je vous dis, dans mon quartier du 6e arrondissement, c'est exactement un labyrinthe. Les murs ne sont pas ronds. Mais entre toutes ces ruelles dont on ne sait jamais, même j'y habite depuis 15 ans, je ne sais pas encore distinguer la rue Christine de la rue Palatine, de la rue Dauphine. Puis il y a des rues confuses, entremêlées, dans quoi je sais que l'on peut vivre, mais que je ne discerne pas. Donc ce labyrinthe que je crée, ce n'est pas simplement le plaisir de faire des formes courbes et extravagantes, c'est de créer des possibilités d'égarement.
Quand vous revenez dans la Grande Borne, est-ce que vous avez l'impression que ce que vous avez voulu faire correspond un petit peu à la réalité ou bien qu'il y a un hiatus en fait ?
Ça correspond totalement à la réalité parce qu'en fait, ce que l'on voit quand on s'y promène sont surtout les enfants. Or, ils jouent exactement comme j'avais imaginé qu'ils feraient.
Alors, on vient d'entendre Émile Ayot, qui est l'architecte qui a dessiné et construit et fait construire ce quartier emblématique qui est la Grande Borne à Grigny. On est en 1972, donc au moment où j'allais dire, la vie prend dans cet espace-là. Qu'est-ce que vous, parce que vous y avez effectivement passé une dizaine d'années pour votre enquête, qu'est-ce qui est toujours vrai aujourd'hui, j'allais dire d'une certaine manière, parce que les murs sont toujours là, mais qu'est-ce qui a changé aussi de cet espace, Jérôme Truc ?
Ce qui est toujours là, c'est ces bâtiments en forme de spaghetti qui sont emblématiques de ce quartier, qu'on reconnaît tout de suite dès qu'on voit une photo, on voit que c'est la Grande Borne et que ce n'est pas une autre cité. Et il y a quelques habitants qui ont connu ces débuts, qui sont toujours là et qui ont vu l'évolution. L'évolution, c'est déjà qu'aujourd'hui, les voitures peuvent y rentrer. Comme le disait Émile Ayot, il avait imaginé cette cité comme une cité des enfants, où les enfants pourraient aller et venir sans être inquiétés en rien. Et donc, ceux qui ont grandi là et qui ont aujourd'hui...
Parce que les voitures étaient exclues complètement de cet espace.
Exactement.
Les bâtiments étaient relativement bas, de 3 étages, je crois, à peu près.
Oui, parce qu'il y a l'aéroport d'Orly qui est à proximité. Donc, du coup, une servitude avait été imposée à l'architecte qui l'obligeait à faire des immeubles qui soient bas à cause d'un téléguidage en fait, des avions pour éviter que les ondes... Et donc, en fait, il y a ces immeubles qui sont bas. Il y a encore aujourd'hui, des grands espaces verts. Et l'idée, donc, c'était que les enfants puissent aller et venir. Les établissements scolaires avaient été intégrés à l'espace. Et donc, ils pouvaient vivre là, librement, comme il le décrit là, comme dans un village, en fait, un vieux village où on va dans les ruelles où les voitures ne peuvent pas circuler. Donc ça, en partie, ça reste aujourd'hui. On en voit les traces et les immeubles sont encore là. Mais donc, simplement, les évolutions depuis les années 70 du quartier, de son environnement, ont fait que voilà, cette cité des enfants a fini par être brocardée dans les années 90 comme une cité de la peur, parce que cette cité dans laquelle on peut se perdre, c'est devenu un lieu idéal pour le trafic de drogue. Vous le rappeliez, en plus, il y a l'autoroute A6 qui est à proximité. Donc, aussi bien pour l'approvisionnement depuis l'aéroport d'Orly ou depuis les GoFast qui arrivent par l'autoroute que pour les clients qui arrivent de Paris, en fait, c'est assez idéal. Et puis, en fait, les policiers ne pouvaient du coup pas rentrer dans la cité. Très difficile de démanteler les trafics. Et donc, des travaux ont été faits pour la désenclaver, en gros, pour permettre aussi à un bus de la traverser. Donc, désormais, il y a un bus qui connecte aussi cette cité à la station de RER, qui est à 2 kilomètres de là. Donc, voilà, il y a ces évolutions qui, à la fois, peuvent apparaître objectivement comme des progrès. Il y a un bus, on n'est plus si isolé qu'on l'était avant. Et en même temps, qui, pour certains qui ont connu les débuts de la cité, apparaissent comme la perte d'un âge d'or dans notre livre. Avec Fabien, on rapporte les propos notamment de quelqu'un qui a grandi là et qui nous dit, voilà, tel que c'était à l'époque et là aujourd'hui, en fait, on nous apprenait à être autonome, à aller et venir. Et maintenant, en fait, voilà, là où on est, vous voyez, les voitures peuvent circuler. Moi, avant, c'était la cour de récréation de mon établissement scolaire. Et il y a un vrai, c'est quelqu'un qui a fait le choix de rester là, mais qui a un vrai regret de la manière dont les choses ont pu évoluer au fil du temps.
Fabien Truong, par rapport à cet espace et cette description, en complément de ce que dit Jérôme Truc.
Oui, pour compléter ce que vient de dire Jérôme, en fait, c'est intéressant avec la Grande Borne parce que c'est nous, ce qu'on montre à Grigny, c'est qu'il y a deux quartiers, enfin, il y a deux grands ensembles,
très
différents. Grigny 2 et la Grande Borne. Et ce qui est intéressant, en fait, dans la trajectoire de la Grande Borne, c'est que, enfin, en général, de l'extérieur, on entend beaucoup parler de la Grande Borne et peu de Grigny 2. Ça veut dire qu'en fait, dès le départ, la Grande Borne, c'est le quartier qui est stigmatisé. Pourquoi c'est le quartier qui est stigmatisé ? Parce que, en gros, c'est un quartier d'habitat social qui est construit très vite dans les années 70 pour désengorger les bidonvilles qui sont autour de Paris. Donc, dès le départ, il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est-à-dire que pour les personnes qui arrivent à la Grande Borne, c'est des personnes pour qui se retrouver dans une cité comme celle de la Grande Borne, c'est un progrès, c'est-à-dire qu'on a accès à des toilettes, à une cuisine, et donc c'est bien mieux que d'être dans un bidonville à la lisière de Paris. En même temps, on a une concentration d'une population précaire et pauvre, et si on la met aussi loin de Paris, c'est qu'on ne souhaite pas, en fait, quand je dis « on », c'est que les personnes les plus affluentes ne souhaitent pas vivre à proximité, en fait, de la pauvreté. Et donc, du coup, il y a un effet de concentration de trajectoire pauvre et précaire qui fait que dès le début des années 70, il y a des reportages et des discours très stigmatisants sur la Grande Borne. C'est pour ça que dans l'imaginaire collectif, dès le début, la Grande Borne, ça a cette image de quartier malfamé, pauvre, etc. Alors, il faut rajouter aussi que là, on entend Émile Ayot qui nous parle de l'idée un peu onirique de l'architecture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit encore des enfants qui jouent dans la Grande Borne.
On y reviendra, mais vous-même, vous vous y perdez. Oui, alors nous, dans l'enquête.
Exactement. Ouais, dans le début du livre, il commence la première fois où on y va. Enfin, en l'occurrence, en plus, vous avez mentionné Anne et Gilberte. J'y vais avec Anne et Gilberte, qui, elles, sont de Grigny 2 et qui cherchent à me faire pénétrer dans la Grande Borne. Et on se perd tous les trois. Et c'est des enfants, en fait, qui viennent nous récupérer et qui nous montrent le chemin. En fait, on cherchait une école qu'on n'arrivait pas à trouver. Donc, cette dimension des dalles, elle est très présente. Par contre, ce qu'il faut mentionner, c'est que dès le départ, ça a été très mal conçu. Parce qu'en fait, c'est une chose, l'idée architecturale, mais il y a aussi la réalisation. Et en fait, dès le départ, c'est une population qui va être assez mal logée. Parce qu'en fait, par souci d'économie et de rapidité, en fait, ce quartier a été construit avec des plaques préconstruites. Enfin, en gros, c'est Bouygues pour aller vite. Et c'est des plaques qui sont défectueuses. Donc, on va aussi avoir des problèmes de mal logement, d'étanchéité très rapidement. Par contre, ce qui est aussi intéressant et ce qu'on sent moins de l'extérieur, c'est que la trajectoire sociale du quartier, en gros des années 70 jusqu'à aujourd'hui, à l'intérieur de la ville et par rapport à l'idée que Grigny accueille effectivement une population pauvre et précaire, la polarité en fait s'est inversée avec Grigny 2. Et du coup, je vais dire deux mots de Grigny 2, mais cette polarité est intéressante, c'est-à-dire que Grigny 2, on en parle peu depuis l'extérieur, c'est bien moins connu que la Grande Borne. J'explique qu'un Grigny 2, c'est un quartier qui est aussi imposé à la ville au même moment que la Grande Borne, de l'autre côté de l'autoroute, et qui est construit, donc là c'est du parc privé, c'est la deuxième plus grande copropriété d'Europe, construit par De Balkany, et on est sur l'accession à la propriété, et au départ qui vise des couples ou des familles plutôt de la classe moyenne ou moyenne aisée.
Et là aussi on retrouvait un projet, l'accès à du luxe, enfin une forme de... Il y avait une piscine, il y avait des choses aussi qui étaient conçues pour attirer ces classes moyennes, voire supérieures.
Voilà, alors avec un peu un fantasme sur l'American Way of Life, en gros, avec des tours très hautes, 15-16 étages, très nombreuses, avec une architecture un peu brutaliste, mais qui se voulait très moderne, et avec l'idée qu'en gros, on a la vue sur Paris, on va pouvoir garer sa voiture, et on pourra rejoindre Paris très rapidement, tout en ayant du recul par rapport à la vie parisienne. Pour aller très très vite, ça va très vite se dégrader, il va y avoir tout un tas de problèmes et de surdensité en fait. Un certain nombre de familles sont restées entre guillemets coincées et là on a une autre trajectoire, c'est-à-dire que les prix se sont effondrés, l'entretien s'est complètement dégradé, il n'y a jamais eu les services publics nécessaires pour accueillir autant de population et là on a eu en fait un certain nombre d'appartements qui ont été vendus aux enchères et des marchands de sommeil en fait, qui ont acheté ces logements en nombre et qui les sous-louent à des populations extrêmement précaires, sans papier, pour vous donner un ordre d'idée, qui vont payer une demi-chambre séparée par un rideau de douche pour 300 euros par mois, par exemple. Alors, juste pour terminer, là, avec la comparaison avec la Grande Borne, on parle très peu de Grigny 2, alors que c'est par rapport à Grigny, c'est devenu le quartier beaucoup plus précaire et beaucoup plus difficile par rapport à la Grande Borne. Et dans les trajectoires locales, passer de Grigny 2 à la Grande Borne, c'est une véritable... amélioration du niveau de vie. Et on peut comparer les indicateurs socio-économiques. Ils sont plus favorables, entre guillemets, à la Grande Borne. Et pourtant, le stigmate continue à perdurer sur la Grande Borne. Donc ça, c'est pas aussi inintéressant, le décalage entre le regard extérieur et le regard intérieur. Et c'est vrai qu'au fond, l'enquête ethnographique, elle permet aussi de plonger au cœur de la ville et de se rendre compte de ces différences.
Voilà. Alors justement, votre enquête, comme je le disais tout à l'heure, est une enquête de 10 ans. Qui commence donc en 2015. Est-ce que vous pouvez nous raconter ou nous rappeler le pourquoi vous arrivez en novembre ? Alors, vous pourrez donner le jour précis de votre arrivée, parce que c'est assez symbolique d'une certaine manière. Et pour quoi faire, Jérôme Truc ?
On arrive effectivement à Grigny le 13 novembre 2015, exactement. Et le jour de ces funestes attentats qui vont avoir lieu le soir, alors que justement Fabien et moi, on rentre de notre première visite à Grigny après avoir rencontré un collectif. Et c'est un collectif qui s'est formé en réaction aux attentats qui ont eu lieu en janvier, ceux de Charlie Hebdo, de l'Hyper Cacher et de Montrouge, parce que donc un des terroristes qui a perpétré ces attentats, Mehdi Koulibaly, avait grandi dans la ville. Et que donc dans les jours qui suivent les attentats de janvier 2015, il y a tout plein de prises de parole à la fois médiatiques et politiques, des articles de presse, etc., qui brocardent la ville de Grigny. On est dans le prolongement de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce discours médiatique qui vise la banlieue en général et pas que Grigny, mais donc Grigny va être emblématique dans les années 90 avec cette idée que la Grande Borne est devenue la cité qui fait peur, hein, devait être au départ une cité des enfants, est devenue la cité qui fait peur. Amélie Coulibaly a grandi à la Grande Borne et donc en 2015, en gros, certains journalistes et politiciens tirent la conclusion en disant « ben voilà, c'est pas étonnant, on a laissé les choses pourrir depuis les années 90, on en arrive à ça, maintenant c'est une ville où grandissent des terroristes ». Et quelque chose que vivent très douloureusement les habitants, parce que on l'explique aussi dans le livre, en fait la tante de Clarissa Jean-Philippe habite aussi à Grigny, et elle apprend la mort, le fait que sa nièce, donc la policière qui est abattue par Amélie Coulibaly à Montrouge, il y a quelque chose de tragique là-dedans, hein. Elle l'apprend dans une réunion d'habitants qui est organisée à la suite des attentats de Charlie Hebdo. Donc on montre bien, dans ce qu'on, enfin voilà, à l'époque, on a aussi tout un discours consistant à dire que les banlieues sont pas vraiment Charlie, un peu en marge du deuil collectif national qui prend forme à ce moment-là. Et en fait, dans une ville comme Grigny, il y a des réunions qui sont organisées en réaction aux événements. Il y a des gens qui sont très directement touchés par les événements, qui sont très directement du côté des victimes et qui sont pris dans cette tension dès lors qu'après, ils apprennent que l'un des terroristes a grandi là, que certains l'ont connu petit, se souviennent très précisément de lui. C'est un voisin pour beaucoup d'habitants de Grigny. Et donc, un collectif d'habitants se forme pour en fait essayer tout simplement de redonner la parole aux habitants. Comme on dit trivialement, les habitants et habitantes de Grigny, dans ce contexte-là, en 2015, ils en ont gros sur le cœur et ils ont besoin de pouvoir l'exprimer publiquement dans un contexte où en fait tout le monde parle à leur place et personne leur tend le micro tout simplement. Et donc ils récupèrent comme ça ce collectif qui se forme à l'idée de créer ce qu'ils appellent des murs de parole. Donc avec les moyens du bord, hein, simplement des paperboards, un paperboard, ils vont se placer à différents endroits stratégiques de la ville pendant quelques jours sur le parvis de la gare de RER, à la sortie de la du bureau de poste, au marché de la Grande Borne, et ils proposent aux gens qui sont là de mettre un mot s'ils le souhaitent. Et donc, ils vont récupérer comme ça à peu près 300 messages écrits, mais aussi dessins, parce qu'évidemment, à Grigny, il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas forcément très bien le français, encore moins le français écrit, il y a des populations immigrées, allophones. Donc, les gens écrivent ce qu'ils peuvent, et certains font des dessins. Et donc, ce collectif, tout simplement, arrivé au milieu de l'année 2015, à l'idée, souhaite organiser un événement de restitution à la population de ces murs de parole pour le premier anniversaire des attentats, en janvier 2016. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il lance une bouteille à la mer, un appel à des sociologues pour les aider dans cette entreprise, qui nous parvient, auquel on répond, et le temps de s'organiser. On arrive pour participer à une de leurs réunions et les rencontrer le 13 novembre 2015. Et donc, voilà, c'est comme ça que l'enquête démarre. C'est comme ça qu'on découvre Grigny. Et très rapidement, enfin voilà, en échangeant avec eux, en voyant aussi ces messages qu'ils ont recueillis, on se dit qu'au-delà de la mission à laquelle on répond là, qui consiste à les accompagner pour quelques mois à l'organisation de cet événement, on raconte tout ça dans le livre, on se dit qu'on va rester davantage, qu'on va rester plus longtemps pour essayer de comprendre aussi ce qu'il y a derrière, parce qu'on se rend compte que ces événements de 2015 viennent, pour les gens qui habitent là, exacerber les difficultés du quotidien. Voilà, que vivre à Grigny, dans ce contexte qu'a rappelé Fabien, où les choses ont eu de cesse de se dégrader aussi bien à Grigny 2 qu'à la Grande Borne depuis les années 70, l'époque où apparaissent ces grands ensembles qui sont imposés à la ville et qui la font tout d'un coup passer d'une petite bourgade de 3000 habitants à une ville de quasiment 30 000, il y a 30 ans voilà, de dégradation et qui se traduisent voilà, par une concentration d'un certain nombre de problématiques, ce qu'on désigne dans le livre comme étant, en fait, au bout du compte, des formes de violence structurelle dont on essaie de caractériser les différentes dimensions et qui font donc que, quand on vit à Grigny, on vit des épreuves au quotidien, quasiment en permanence. Dans le livre, on parle, en écho à la situation de crise ouverte par les attentats en 2015, on parle d'un état d'urgence permanent. On se rend compte vraiment qu'en 2015, les gens qui se mobilisent sont des gens qui sont habitués déjà à parer aux difficultés, à parer aux épreuves, qu'il y a eu des précédents avant. Et que donc voilà, pour pouvoir mettre ça en perspective, il va falloir qu'on prenne le temps de revenir. On ne sait pas qu'on s'embarque dans une enquête de 10 ans, mais de fait, le fait d'y être resté 10 ans nous a permis d'aller au-delà, je pense, d'un certain nombre de lieux communs, de clichés qu'on peut avoir sur les banlieues quand on fait que aller, venir très ponctuellement en lien avec les faits divers qui peuvent y avoir lieu. Ça nous a permis de voir des trajectoires comme celles qu'évoquait Fabien, notamment de personnes qui sont à Grigny 2 quand on les rencontre, qui y habitent, qui s'y sont installées, puis qui ensuite vont se déplacer à la Grande Borne. Et effectivement, la Grande Borne, aujourd'hui, c'est ce quartier de Grigny où les gens... La topographie du quartier est restée escalée, donc il y a toujours ces grands espaces verts, c'est beaucoup, beaucoup moins dense que Grigny 2, et le voisinage y est beaucoup plus stable, et donc en fait, il y a une vie de village à la Grande Borne, et tous ceux qui l'ont connu, même si certains peuvent avoir des raisons ensuite de vouloir aller vivre ailleurs, notamment pour aller vivre en pavillon, mais tous ceux qui ont passé du temps là, généralement, en ont été marqués, parce que il y a cette expérimentation d'une vraie vie de village avec des liens d'entraide et de solidarité entre les habitants qui sont d'autant plus forts, qui permettent de faire face, donc, à ces épreuves, ces difficultés du quotidien auxquelles on est particulièrement confronté quand on vit là.
Merci. Alors, je propose qu'on enchaîne avec la chronique d'Héloïse.
D'un point de vue historique, le sociologue Norbert Elias a montré dès les années 1930 que la violence s'est transformée dans les sociétés occidentales entre le 9e et le 20e siècle. Non pas qu'elle ait disparu des instincts humains, la nature humaine n'a pas fondamentalement changé, la thèse d'Elias est de souligner que les codes sociaux concernant la violence ont évolué, et ce, corrélativement aux évolutions politiques. Il a nommé ce phénomène historique le processus de civilisation. Politiquement, la violence des individus devient illégitime, puisque le monopole de la violence légitime est revendiqué avec succès par l'État moderne. En plus de cela, des normes sociales contraignent le corps et apprennent ainsi aux individus à contrôler leurs pulsions violentes. C'est au sein de ce processus que, pour Elias, le sport moderne réglementé est né dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Dans l'ouvrage qu'il a écrit en 1986 avec Eric Dunning, Sport et civilisation, il note ainsi « Le sport est un moyen de contrôle des pulsions et un espace toléré de débridement des émotions. La violence que les codes sociaux légitiment est dès lors restreinte, délimitée. » Donc si l'on suit cette démonstration, on comprend que notre seuil d'acceptation de la violence a diminué. Du même fait, notre perception de la violence évolue aussi. Nous pouvons le vérifier aujourd'hui, où les violences sexistes et sexuelles comme les violences conjugales sont de plus en plus signalées. Est-ce alors qu'elles ont augmenté en nombre? Ou est-ce que c'est notre perception de la violence comme violence qui a changé? Manifestement, les chiffres sont insuffisants pour saisir combien la violence affecte la société française. Et l'on peut ajouter qu'il y a des variations géographiques et sociales importantes. Sur la période 2016-2018, 26% des personnes qui vivent dans des quartiers prioritaires disent se sentir en situation d'insécurité, souvent ou de temps en temps. Et c'est 10% dans le reste du territoire. Parlant d'insécurité, on pense ici à des violences brutales, des fusillades, des agressions.
Mais la violence se manifeste-t-elle que sous la forme d'actes brutaux ou ponctuels? Comme l'expliquent nos deux invités, n'y a-t-il pas aussi une violence sociale continue qui sévit dans les banlieues?
Oui, alors il faut considérer déjà l'effet psychologique des violences qui se répètent et qui se banalisent. Elles occasionnent de la souffrance, et ce d'autant plus qu'elles ne sont pas mises en mots. C'est la violence normalisée quotidienne que théorise l'anthropologue Philippe Bourgois dans un article de 2012. Il prend l'exemple de vexations policières routinières qui peuvent susciter un sentiment d'infériorité sociale chez ceux qui la subissent. La violence vécue au quotidien peut également provenir du système institutionnel. Ainsi, ATD Quart-Monde dénonce dans un plaidoyer de 2024 une maltraitance institutionnelle. Parce que des droits, comme le RSA, sont excessivement conditionnés, parce que les démarches administratives sont très complexes, parce que, finalement, les institutions méconnaissent ce qu'est la grande pauvreté, des personnes qui sont en situation de pauvreté n'accèdent pas à leurs droits.
Et dans l'histoire des idées, ces violences sociales invisibles ont-elles été théorisées?
Oui, les recherches sur le sujet apparaissent, par exemple, dès les années 1930, avec une philosophe comme Simone Veil, qui étudie le monde ouvrier chez Alstom ou dans les usines Renault de Boulogne-Billancourt. Dans La condition ouvrière, elle explique que les ouvriers vivent dans une angoisse constante et diffuse qui leur vient surtout de la peur de perdre leur emploi. Je cite « Je me levais avec angoisse. J'allais à l'usine avec crainte. Rentré à 5h15, préoccupé aussitôt de dormir assez et de me réveiller assez tôt. » Ces souffrances psychologiques peuvent ne pas sembler très spectaculaires, mais ce sont des violences qui affectent profondément les ouvrières et les ouvriers. De son côté, le sociologue Pierre Bourdieu insiste sur le fait que, quand on traite des malheurs individuels, il ne faut pas négliger l'aspect du ressenti. En 1993, dans l'ouvrage collectif « Misère du monde », il enquête sur la misère de position vécue par les individus. C'est le fait de se sentir dérisoire dans le monde où l'on se situe par rapport à d'autres personnes qui jouissent d'une position supérieure. Et ce n'est pas nécessairement lié à la précarité matérielle. Pour cerner ce qu'est la pauvreté, le sociologue Nicolas Duvou invoque très récemment le critère de l'insécurité sociale, c'est-à-dire le sentiment qu'a une personne de ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir. Que des violences soient cachées ou non objectives ne les rend pas moins importantes, au contraire. Selon Pierre Bourdieu, elles peuvent permettre d'expliquer d'autres phénomènes de violence, phénomènes qui sont cette fois brutaux et spectaculaires.
Merci Héloïse. Là, on a évoqué différents paramètres de ce que est la violence, à la fois, et un des mots du sous-titre, c'est bien le ressentiment, enfin la question du ressenti. Comment vous lisez la situation des habitants au regard de cette question de la violence qui est sans doute dans leur paysage et leur vécu, comme étant extérieure, mais qui est aussi une violence d'où qu'elle vienne, qui est subie. Fabien Truong.
Oui, tout à fait. Alors, merci Héloïse pour la chronique, parce que du coup, le livre vise justement à dialoguer en fait avec cette question de comment on caractérise et théorise la violence dans les sciences sociales. Et notamment, là a été cité Elias, Bourgois et Bourdieu. Donc, je vais revenir sur en fait comment nous on dialogue avec ces auteurs et quelle est la place en fait de Grigny et par extension des quartiers populaires dans cette affaire-là. Alors, en ce qui concerne Elias, comme il a été dit, et ça c'est très clair, on a une sorte de paradoxe aujourd'hui, c'est-à-dire, mais qui est un peu le paradoxe eliassien, on va dire, c'est que plus un mal diminue, plus il nous est insupportable. C'est la question de la sensibilité. Et en ce qui concerne tout un tas d'indicateurs objectifs à long terme, contrairement à ce qu'on entend sur les plateaux de télévision, on vit dans une société qui est globalement de moins en moins violente. Par contre, on est de plus en plus sensible à ce qu'il reste de violence. Ça, c'est au niveau, collectif. Par contre, dans les quartiers populaires et dans une ville comme Grigny, ce sont des endroits où se concentre le plus haut niveau de ces violences qui restent, et ce sont aussi les lieux qui sont les plus mis en spectacle. C'est-à-dire que la violence qui subsiste dans les villes comme Grigny, elle est, c'est cette violence-là dont on parle en fait très régulièrement dans les médias et sous forme de traitement de faits divers. Et donc on a cette idée et tout ça se tient en fait. Qu'il y a globalement de moins en moins de violence dans la société, donc on y est plus sensible, mais qu'elle se concentre dans des lieux qui sont mis en spectacle et dans des lieux où on réduit en fait ces lieux et la vie des individus à cette violence-là.
Ce qui et c'est là où produit. Vous reprenez une expression qui est utilisée par certains médias, d'herbe folle, que vous reprenez,
oui, alors,
ou d'herbe sauvage.
Oui. Typiquement, ça c'est un papier du Figaro après les attentats... commis notamment par Amédie Coulibaly. Alors typiquement, on est dans ce cadre-là. C'est une journaliste du Figaro, Marie-Estelle Pech, pour la nommer, qui vient une après-midi en interrogeant quelques collégiens sur Amédie Coulibaly, qui vont tenir des propos un petit peu outranciers, mais en fait, elle a les réponses à la question qu'elle-même se pose sans véritablement passer du temps et mettre en contexte des paroles d'adolescents, surtout dans un moment post-attentat. Bon, c'est très bien que tout ça, ça n'a pas véritablement de valeur, mais tout ça, ça fait un papier très généralisant qui vise à dire qu'il y a une violence culturelle dans les quartiers populaires et que tout le monde n'est pas Charlie, qu'on soutient les attentats, etc., etc. Bref, et donc ça, évidemment, c'est ce papier-là, par exemple, il est vécu comme une véritable violence par les habitants qui se sentent déniés, en fait, dans leur libre expression de leurs émotions, puisqu'on les réduit finalement à des caricatures, et puis, voilà, qui rajoutent une certaine manière de la violence à la violence. Donc, c'est intéressant aussi de se poser la question collectivement, qu'est-ce qui fait, c'est une des questions du livre, que la violence, en fait, qui subsiste dans notre société, se concentre majoritairement dans certains espaces. Alors, je ne dis pas que il n'y a pas aucune violence en dehors des quartiers populaires, c'est pas du tout ce que je dis, mais par contre, il y a une concentration tout à fait spécifique qui est mise en spectacle. Une fois qu'on a dit ça, il y a une discussion à avoir avec Bourgois qu'on a, qui est de, finalement, quand on a cette concentration de violence, comment on caractérise les choses? C'est quoi la violence au quotidien? Et Bourgois, il fait un travail d'ethnographie, et nous aussi. Et l'idée aussi, c'est que, en fait, la violence, ça n'existe pas, c'est une notion très mal assurée dans les sciences sociales. La seule chose qu'on peut faire quand on fait de la recherche en sciences sociales, et c'est ce que montre Bourgois, c'est ce que montre Bourdieu aussi, c'est caractériser les choses, dire de quoi on parle. Effectivement, quand on peut considérer comme étant de la violence symbolique ou des coups portés sur un habitant, ou quelqu'un qui meurt, ou un viol, et qu'on met tout ça comme étant la violence, il faut précisément caractériser les choses. Et caractériser, ça veut dire passer du temps, observer et tracer des lignes ensuite de partage. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Donc le livre, en fait, il passe en revue un tas de violences et les caractérise, il explique les avant, les pourquoi. Et dans une logique de clarification, on cherche à montrer que dans ce moment, enfin dans ces lieux où il y a une concentration de formes multiples de violence, finalement, il y a trois logiques centrales qui guident en fait ce que nous on appelle la violence structurelle dans le livre, qui sont une logique d'exploitation, et de dire aussi qu'il y a une violence des flux, j'y reviendrai, une deuxième logique qui est une logique de trafic, entendu au terme générique, pas que le trafic de drogue étant ce qui est le plus visible et peut-être le plus prégnant, mais c'est une logique plus générique qui produit finalement une violence de ce qu'on appelle les dépendances rapprochées, et puis une troisième logique qui est la logique du virilisme et qui produit une violence tout à fait particulière. Ça, c'est les trois grandes formes de violence structurelle qui structurent en fait le quotidien et l'état d'urgence permanent et la concentration des violences. Et enfin, dans une troisième partie, et là aussi ça fait écho finalement à ce qui était dit dans la chronique sur le travail de Bourdieu sur misère de position, misère de condition, et le travail de Elias sur l'idée des ressentis, c'est regarder, et c'est pour ça qu'il nous a fallu 10 ans, au niveau des trajectoires individuelles, comment les violences sont vécues, subies, comment on lutte contre elles au niveau intime, en fait, au niveau des trajectoires. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un suivi fin de trajectoire sur une dizaine d'années pour documenter tout ça. Un dernier point, après je laisse la parole à Jérôme, sur la question de la violence des flux. Ça, je pense que c'est un apport important du livre qui permet de sortir de la logique un peu culturaliste, de dire, culturellement, il y a toujours de la violence en banlieue et plus de violence en banlieue parce que soit ce sont des pauvres, parce que ce sont des immigrés, ou parce que ce sont des musulmans. Enfin, on a une narration en fait qui est devenue assez banale, malheureusement, politiquement parlant et médiatiquement parlant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à hauteur des 10 ans, plus de la moitié de la population a changé dans une ville comme Grigny. Donc en fait, les quartiers populaires, ce sont des lieux qui se transforment en permanence. Et la dernière partie s'appelle « Chasser-croiser ». On montre qu'il y a des flux constants d'arrivées et de départs. Et ces flux constants d'arrivées et de départs, en fait, déstructurent la ville. C'est-à-dire qu'en gros, la ville se vide en grande partie de ses ressources sociales, qui sont tous ces habitants de quartiers populaires, en fait, qui, à échelle de 10 ans, trouvent leur place, ont un travail, sont stables, en fait. Et donc, les quartiers populaires, ils font aussi ce travail, en fait, d'intégration.
Et d'une forme de promotion.
Sociale. Oui, de promotion, et même, j'irai plus loin, parce qu'il faut voir ce que subissent, en fait, les quartiers populaires. C'est un travail aussi d'enveloppement et de remédiation sociale vis-à-vis de la violence, en fait, qu'on subit. Et ça existe, et c'est massif, et c'est à peu près la moitié du travail, entre guillemets. Et par contre, ces personnes sont remplacées par des personnes qui arrivent de loin, qui sont cassées, qui ont subi de multiples violences en arrivant dans ces lieux-là. Et ces flux-là, en fait, ils produisent, en fait, de la violence à hauteur même des villes. Donc, quand on a cette concentration et ces indicateurs en fait de violence qui augmentent, l'explication, elle n'est pas culturelle, elle s'explique aussi par ces flux, qui sont des flux démographiques et des flux démographiques qui répondent à une logique en fait sociale et qui est en grande partie tributaire de la géopolitique mondiale.
Alors Jérôme Truc, c'est peut-être aussi dans ce sens-là où Grigny est finalement une ville comme une autre, ou un quartier populaire, ou ce sont des quartiers populaires comme les autres, d'une certaine manière. Parce que si on regarde d'autres opérations urbaines, je pense à la Villeneuve à Grenoble, ou à d'autres lieux un peu emblématiques de cette époque de la fin des années 60, on retrouve les mêmes mécanismes, finalement.
Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que, bien qu'ayant passé 10 ans à Grigny, avec un projet qui avait une dimension monographique, on en est venu à donner ce sous-titre au livre violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populaires, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que ce qu'on observait à Grigny valait pour les quartiers populaires en général. Pour cette raison que Grigny aussi, en fait, concentre, hein, comme on l'a rappelé, concentre de manière assez paroxystique tout un nombre de facteurs, ne serait-ce que d'abord par commencer par le fait qu'il y a ces deux grands ensembles qui lui ont été imposés et qui sont vraiment, chacun dans leur style, des emblématiques d'un côté des grands ensembles de logements sociaux, HLM, et de l'autre côté de ces... C'est cette époque où on avait aussi ce rêve de créer des grandes copropriétés privées pour une classe moyenne. C'était le rêve aussi des Trente Glorieuses, alors qu'il a réussi à Paris 2 dans les Yvelines. Paris 2, qui aurait dû s'appeler Paris 2 d'ailleurs, et c'est parce que le conseil municipal de la ville de Paris s'y opposait que ça s'appelle Paris 2, mais qui encore aujourd'hui est une copropriété bourgeoise assez resplendissante.
Et c'est parce
que
ça avait
fonctionné que il y a toujours la piscine, les cours de tennis, etc. Et des charges très payées, très élevées à payer, mais des propriétaires qui peuvent les payer. Tandis qu'à Grigny 2, l'idée de refaire, de reproduire ce modèle qui avait été un succès a abouti à la situation qui est celle qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est vrai que on observe à Grigny un ensemble de choses qui se retrouvent dans les quartiers populaires, mais y compris sur cette logique, donc sur ces différents facteurs structurels qu'évoquait Fabien. En particulier, je reviens sur la première d'entre elles, qui est à laquelle on consacre notre chapitre 4, le premier de la deuxième partie, sur la logique d'exploitation. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte aussi, en y passant du temps et en enquêtant, que on a toujours cette vision des quartiers populaires de banlieue comme étant en gros des territoires dans lesquels à un moment donné, dans les années 80, 90, ça a commencé à se dégrader. Mais en fait, le verre a toujours été dans le fruit. On a eu besoin de refaire l'historique pour se rendre compte que dès le départ, en fait, quand la Grande Borne et Grigny 2 sont mises en place, il y a une logique d'exploitation économique.
Et qui existe avant, en fait, avec l'agriculture avant, avec la carrière avant.
Et exactement, c'est-à-dire que même encore au-delà, en fait, Grigny, ça commence par d'abord des terres d'exploitation agricole. Ça permet de nourrir Paris. Bon, on cultive là des céréales, des pommes de terre, des betteraves, etc. C'est un haut lieu de la modernisation agricole, par exemple, à la fin du 19e siècle. Donc, on repart de là. Et puis ensuite, tout d'un coup, on découvre qu'il y a des gisements de terres meulières en dessous. Alors, en fait, du coup, c'est pareil, on l'a complètement oublié. En fait, les tunnels de métro, l'aqueduc du Loing, qui encore aujourd'hui approvisionne en eau potable la ville de Paris, en fait, sont construits de la pierre de meulière qu'on extrait de Grigny. Et à partir du moment donc, où la société Piketty Frères arrive d'Italie, s'installe là pour exploiter la pierre meulière, ben on a toute une filière aussi d'immigration qui se met en place. Donc avant même qu'il y ait les grands ensembles qui soient créés, on a la petite Italie qui se crée alors à Grigny comme il y en a d'autres ailleurs, parce que c'est l'époque où il y a cette immigration italienne en France. C'est comme ça que les choses se mettent en place, et directement avec d'abord une logique donc, d'exploitation de la terre, et puis de la pierre qui est sous la terre. Et puis ensuite, une fois qu'on a épuisé les gisements, ben effectivement, on se décide que sur ces grandes terres, on va construire la Grande Borne. Là où on a construit la Grande Borne, avant, c'était l'exploitation de la pierre meulière et encore avant, donc des céréales et des pommes de terre et des betteraves. Et puis donc Grigny 2 de l'autre côté, et avec donc une logique de là, on va parquer des individus dont on ne veut plus dans le centre-ville, mais qui à nouveau vont être indispensables. C'est-à-dire qu'on passe des flux de biens à des flux de personnes qui sont exclusifs, parce que c'est aussi là que donc on va avoir un marché florissant du trafic de drogue qui va se mettre en place, et la drogue est un autre type de bien qui connecte ces banlieues au centre-ville de Paris. Et donc, une ville comme Grigny, qu'on peut dépeindre, qui a été dépeinte comme étant une cité de la peur, un ghetto, où en fait on ne pourrait pas rentrer sans risquer sa vie, etc., qui finissent par être dépeints comme des lieux d'ensauvagement, en proie au séparatisme, s'avère être, le Covid aussi l'a montré, le fait de rester 10 ans pour nous a permis de le voir très clairement, des lieux qui restent hyper connectés au centre. Ils l'ont toujours été, mais dans des logiques d'exploitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui ramassent nos poubelles, nettoient les bureaux, s'occupent des personnes âgées,
les emplois
des personnes
essentiels,
hospitalisées, etc. Les employeurs essentiels, en fait, vivent à Grigny, dans des villes comme Grigny, dans des quartiers populaires comme Grigny. Et donc, effectivement, depuis que ce livre est sorti, on a régulièrement des gens qui ont grandi à Bobigny, d'autres villes de banlieue parisienne, d'autres quartiers populaires en province. Moi, un étudiant, par exemple, qui vient d'Évreux, qui nous disent « Ce que vous décrivez là à Grigny, c'est incroyable, c'est exactement ce que nous, on a vécu, c'est ce qu'on vit aussi. » C'est-à-dire qu'à Évreux, par exemple, le quartier, le pire quartier d'Évreux, en gros, c'est celui dont était issu, c'est de là dont était issu le terroriste qui a assassiné Samuel Paty. Et mon étudiant me disait « Mais ce que vous décrivez là sur le 2015, nous, c'est exactement ce qu'on a vécu aussi. Les jeunes qui ont grandi là n'arrivent pas à trouver un stage. Après l'assassinat de Samuel Paty, on s'est pris tout plein d'articles de presse pour dire que voilà, c'était même pas étonnant que dans ce quartier-là, quelqu'un ait fini par faire ça, etc. Et avec des répercussions donc très concrètes sur la vie des gens qui vivent là, et avec ces mêmes tensions, du coup, on parle dans le livre d'un choc au carré pour les gens qui habitent dans une ville comme Grigny, où les attentats surviennent. Comme tout un chacun, les gens qui habitent là sont choqués, scandalisés par l'événement, mais en même temps, le sont encore plus de se rendre compte qu'on jette l'opprobre sur leur quartier d'une manière générale, parce que le terroriste en était issu, ce qui est un élément voilà, particulièrement douloureux pour les habitants de ces quartiers.
Alors, je voudrais quand même qu'on évoque, parce que vous en parlez, c'est un peu le fil aussi de l'ouvrage, de cette expérience du collectif Ensemble Citoyens, que vous nommez comme ça, parce qu'on n'a pas trop parlé des habitants pour l'instant et des éléments de solidarité, parce que c'est un, ce que laisse entendre Ensemble Citoyens, d'essayer de trouver des espaces de dialogue, de construction des formes de citoyenneté aussi, et de rappeler que finalement, eux aussi sont des habitants et des Français comme les autres. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce collectif-là, et peut-être aussi de ses évolutions dans le temps, parce que ce collectif a vécu?
L'histoire de ce collectif est assez emblématique. Enfin, la question qui se pose là, en fait, et qui est au cœur de notre livre, c'est la question de comment est-ce qu'on tient, en fait. Comment est-ce qu'on tient dans ces conditions quand on est soumis à une telle violence, sous différentes dimensions, à des épreuves si régulières, des moments de crise réguliers, comment est-ce qu'on tient? Et ce collectif qui se forme donc en 2015, on le rencontre le 13 novembre, on chemine un peu avec eux, on les aide à organiser cette journée qui est plutôt un assez beau succès en janvier 2016, au sens où il y a pas mal de gens qui viennent dans la salle qui leur a été prêtée d'un centre social pour voir les murs de parole exposés, participer à un événement avec des prises de parole, discuter, revenir sur ces événements qui s'étaient produits l'année précédente. Mais en fait, assez vite, ce collectif ensuite s'étioler avec une difficulté, en fait, passer ce moment initial de la réaction à l'événement avec les murs de parole, puis l'organisation de l'événement commémoratif, une difficulté à trouver d'autres actions. Et donc, on va petit à petit voir les gens repartir vers d'autres fronts, de moins en moins de personnes aux réunions. Et en gros, à la fin de l'année 2016, ils cessent de facto ces activités. Et ce qu'on explique du coup dans le livre, c'est deux choses. La première, c'est qu'en fait, il est assez symptomatique. Enfin, il n'y a rien de très étonnant à ce que ce collectif-là n'ait pas réussi à durer plus longtemps, parce qu'en fait, il naît dans un moment de crise très particulier. Et ces moments de crise post-attentat sont des moments dont on sait qu'en fait, ils créent une effervescence sociale qui dure 9 à 10 mois. Et en fait, au bout de 9 à 10 mois, c'est vrai au niveau local comme au niveau national d'une manière plus générale, en fait.
Et c'est ce que vous montrez sur les post-attentats, cette période qui est une période de 6 mois où les gens se mobilisent finalement de façon très dense, et puis petit à petit, les choses s'étiolent.
C'est ça. C'est les moments d'effervescence sociale où on discute beaucoup de ce qui vient de se passer, de ce qu'on pourrait faire pour éviter que ça se reproduise. Donc ça, c'est très prégnant dans le collectif quand on le rencontre. Ils sont là, cette idée qu'il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et puis ensuite, tout simplement, la vie reprend son cours. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire que les gens qui ont manifesté ne s'en souviennent pas. Dans une ville comme Grigny, en l'espace de 10 ans, la population, elle s'est renouvelée plus de moitié. Donc en fait, pour beaucoup de gens, les événements de 2015, aujourd'hui, ça ne renvoie à rien. Mais Koulibaly, beaucoup de gens ne l'ont plus connu aujourd'hui. Mais il n'empêche que ceux qui ont vécu ces événements-là, qui ont vécu ces jours-là, s'en souviennent encore très, très fortement. Donc, la première chose, c'est qu'en fait, le fait que ce collectif, au bout d'à peu près, au bout de presque 2 ans après les événements, ait fini par cesser ses activités de facto, n'a rien en soi de problématique, ou de particulièrement étonnant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que ceux qui étaient derrière, qui étaient le noyau dur et avec lesquels on a en fait nouer des relations en fait par-delà le collectif, sont des personnes en fait qui sont engagées depuis longtemps dans d'autres fronts associatifs et qui ont depuis longtemps en fait développé des compétences pour parer aux urgences, parer aux difficultés. Et ça nous a en fait mis sur la piste en fait de ce qui fait qu'on arrive à tenir dans un tel contexte, qui est la grande diversité en fait de la société civile, comme on pourrait l'appeler finalement, enfin, avec une vie associative qui est très forte, avec beaucoup d'initiatives individuelles et sur différentes bases. Il y a une grande diversité, en fait, de la vie sociale dans ces quartiers-là. Mais dans un contexte qui est très compliqué aussi, c'est ce qu'on montre, c'est qu'en fait, on est aussi dans un contexte où on manque de tout, et y compris d'espace public pour se réunir. Il n'y a pas de café, par exemple, dans lesquels on pourrait facilement se retrouver pour discuter. Il y a peu de salles de réunion, donc c'est un vrai enjeu. Il y a beaucoup d'initiatives associatives, de collectifs qui se créent, mais il y a peu d'endroits où faire des réunions. Et donc, une vraie difficulté, parce qu'il y a un manque d'espace public, à faire public au sens politique du terme, à porter des initiatives sur le long terme. Et donc là, on voit comment en 2015, un moment de crise particulier favorise en un certain sens, une initiative avec la mairie qui apporte un soutien assez décisif au collectif, mais dont on montre aussi qu'il est à double tranchant, parce que tout de suite, il y a aussi certains qui trouvent que parce que la mairie justement aide le collectif, il y a une dimension politique, c'est récupéré, et donc ça aide en même temps que ça pousse certains à prendre leur distance immédiatement dans les mois qui suivent. Donc voilà, c'est emblématique des difficultés à s'organiser dans le long terme dans ce contexte où une fois encore on est soumis à ce qu'on appelle un état d'urgence permanent. C'est-à-dire que voilà, on développe des formes d'entraide pour parer aux urgences et on est très souvent dans le court terme. Le fait de vivre dans la pauvreté, dans la précarité, ça se traduit aussi très concrètement par la difficulté à pouvoir se projeter. Et donc c'est vrai pour l'action politique comme pour tout le reste, en fait, difficulté à se projeter dans l'avenir tout simplement.
Alors vous utilisez à la fin, dans la dernière partie, la question, la notion de trajectoire individuelle et d'enveloppement collectif. Est-ce que c'est, Fabien Truong, une autre manière de penser les liens sociaux finalement qui existent aussi dans ces territoires-là?
Oui, Pour poursuivre avec ce que disait Jérôme, en fait, ce qu'on montre aussi, c'est-à-dire, et c'est un des fils rouges du livre, c'est en fait comment on tient, et d'ailleurs comment on tient aussi, c'est comment on avance, d'où le titre « Grand ensemble ». En fait, comment on, parce qu'avancer, c'est aussi grandir. Et si on comprend que dans les quartiers populaires, en gros, sur 10 ans, il y a la moitié de la population qui a quitté parce que ce sont des personnes qui connaissent des formes de petite mobilité sociale, en fait, qui se traduisent par des mobilités résidentielles et de personnes qui, voilà, malgré un contexte défavorable, malgré une origine sociale qui fait qu'on grandit dans le dénuement, en fait, qu'on arrive, en fait, à avancer, c'est l'enveloppement collectif, c'est tout ce tissu associatif, mais pas que le tissu associatif. Ce qui reste d'état social. Et donc, par exemple, hein, on montre que aussi le poids de la mairie et des emplois de la mairie.
Le premier ou le deuxième employeur de la ville ?
Premier employeur, le deuxième, c'est le trafic de drogue, en fait. Alors après, on peut débattre sur les chiffres, mais ça veut dire, en fait, que tous ces emplois-là, tout ce qui est lié au public, tout ce qui est lié à l'éducation, en fait, qui est du hors-marché, d'ailleurs, qui est par ailleurs largement sous-doté dans une ville comme Grigny. Ça, depuis le départ, quand Jérôme disait que le verre était dans le fruit. Pourquoi le verre est dans le fruit? Parce qu'en fait, dès le départ, une ville comme Grigny, on lui impose, en l'espace de 3-4 ans, x10 à sa population. Il n'y a pas x10 en termes de services publics. Et donc, malgré tout cela, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que il y a beaucoup d'initiatives collectives, des activités de remédiation, et que le travail des éducateurs, des éducatrices, des enseignants, des enseignantes, malgré un contexte extrêmement défavorable et de plus en plus défavorable, hein, du point de vue de la conjoncture politique, ben il produit, en fait. Il produit des résultats, et des résultats, en fait, en réalité, assez nets et assez spectaculaires. Par contre, et c'est là où, en fait, finalement, le temps de la violence, ou en tout cas de l'émergence de la violence, n'est absolument pas le temps de la solidarité, d'une certaine manière, c'est que si les irruptions de violence, elles sont très spectaculaires et on peut les documenter très facilement à court terme, eh bien, comme vous le savez très bien ici, le temps de l'éducation, le temps de l'enveloppement, il est beaucoup plus long. Mais en fait, en réalité, à hauteur de 10 ans, on peut le voir très, très clairement. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que les gens qui quittent une ville comme Grigny, et d'une certaine manière qui sont la réalisation de la promesse méritocratique ou de ce que vend en fait notre société, et l'idée qu'il faut toujours s'améliorer socialement, etc., et avec une dimension assez individualiste dans l'idéal méritocratique, ces personnes-là savent qu'elles ne se sont jamais faites toutes seules. Et ça, c'est lié à la question de la solidarité, c'est qu'en fait, il y a toujours des relations de dons, de contre-dons, de dettes. Et donc, ça, c'est très, très prégnant. C'est-à-dire, les personnes qui partent, elles savent, en fait, qu'elles doivent beaucoup à des personnes qui sont restées. D'ailleurs, il y a des personnes qui restent, et ça, on le documente aussi, qui d'une certaine manière, décident de rester parce que le sens de leur vie, c'est de donner, génération après génération, cet enveloppement. Donc ça, c'est très, très prégnant. Et ça en dit long aussi sur, en gros, la réalité aussi de ce que c'est qu'une trajectoire sociale, c'est-à-dire que on perçoit toujours les trajectoires individuelles comme justement très individuelles. Et ce qu'on montre dans le livre, c'est que l'individu sans le collectif, il n'existe pas. Mais c'est la même chose dans les quartiers bourgeois, sauf que ça prend pas les mêmes formes en réalité. C'est le capital qui se transmet et qui permet aux personnes d'avancer. Mais ce qui est assez fascinant, en fait, dans une ville comme Grigny, où justement il y a peu de capital, en tout cas économique et patrimonial, c'est de voir que se grandir ensemble, d'une certaine manière, il est extrêmement puissant, performatif et joyeux aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre où on montre que tout ça produit des moments et des situations de joie qui sont assez lucides, en fait. Il y a une lucidité aussi sociologique des individus qui est assez marquante et dont on parle beaucoup à la fin du livre. Et c'est aussi pour ça que, alors là, c'est nous qui parlons aujourd'hui, mais c'est un livre aussi qui a vocation à rendre la parole aux personnes. Donc c'est un livre avec beaucoup de verbatim, avec beaucoup de place accordée aux histoires, aux personnes, à leurs mots, MOTS. Ça aussi, c'est la raison pour laquelle non seulement on a passé du temps, mais qu'il fallait écrire un livre. Parce qu'un livre, c'est un format tout à fait particulier. Et c'est un format où, pour prendre le temps et de la considération et du recueil et de la rencontre, en fait, de toutes ces histoires et de ces processus, eh bien, il faut prendre le temps de la lecture, puisque c'est ce temps-là qui permet de rendre compte des choses. En tout cas, c'est ce qui nous a paru assez clair et assez nécessaire, plus le temps passait pour nous.
Eh bien, merci beaucoup. On invite évidemment nos auditeurs à se plonger dans cette histoire de Grigny à travers votre livre. Un grand merci à tous les deux. Je vous indique aussi que la prochaine émission qu'on enregistrera le mois prochain sera une forme de prolongement de l'échange qu'on vient d'avoir, sous un autre angle évidemment, avec Sébastien Ledoux et Géraldine Bozek autour de l'école et les enseignants face aux attentats. Donc je pense que ça vous intéressera aussi de suivre nos échanges à ce propos. Ça manque pas d'air, une émission de Régis Guyon. Elle a été préparée en collaboration avec Héloïse Marguerite, étudiante à l'ENS de Lyon. À la réalisation, Sébastien Boudin. Au mixage, Laurent Gaillard de Réseau Canopé. Et donc, rendez-vous en avril pour ce prochain épisode. Et retrouvez ce podcast comme tous ceux de Cas d'école sur le site de l'IFE de l'ENS de Lyon et sur toutes les bonnes plateformes de podcasts.